Aérien.
Oui, on y va, il est 8h22.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec vous, Léa Salamé, nous recevons ce matin le délégué général du parti La République En Marche. Question, réaction, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Stanislas Guérini, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. On est à 5 mois des municipales, les premières que La République En Marche va affronter. Votre parti est certes jeune, mais il est installé au pouvoir, dans le paysage, il est d'une certaine manière institutionnalisé. Vous avez déclaré, si à un moment on s'était dit on va faire un raz-de-marée, eh bien c'était une erreur. Adieu l'hubris, bonjour sagesse, c'est ça la nouvelle ligne ?
Oh ben, ça a toujours été ma ligne. Quand on a commencé à faire nos premières investitures, je l'ai toujours dit comme ça. Je crois que personne ne comprendrait que La République En Marche aborde ce scrutin des municipales en disant qu'on va planter des drapeaux partout en France. Nous, on est aujourd'hui des entrants dans la vie politique française, on a peu d'élus locaux. Et je pense que cette élection, c'est une élection qui doit nous permettre de mieux nous implanter dans le pays, d'avoir demain beaucoup d'élus locaux. J'ai fixé un objectif chiffré, c'est-à-dire que je veux qu'on multiplie par 5 le nombre d'élus locaux de La République En Marche.
Alors
pourquoi
vous en avez, pardon, vous en avez 2000,
et j'aimerais que demain il n'y ait plus de 10 000. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de mieux agir. On voit bien que depuis le début du quinquennat, on a fait énormément de lois, je crois que ça personne ne le conteste. On a obtenu des premiers résultats, remis de l'activité économique. Mais là où ça pêche parfois, c'est qu'il faut qu'on change plus le quotidien des gens. Et je crois que ça se fait au niveau local, ça se fait dans chaque ville. Et à mon sens, c'est ça l'enjeu des élections municipales.
Alors, vous espérez 10 000 conseillers municipaux, c'est ça à peu
oui,
près,
c'est ça.
Sur les 500 000 que compte la France,
oui,
ça veut dire pas beaucoup.
En réalité,
vous préparez
500
les
500 000, c'est dans toutes les villes. Il y a beaucoup de conseillers municipaux qui sont sans étiquette, en réalité.
On va
donc, c'est 10
étiquettes.
000. Marquer La République En Marche, mais je suis pas là pour faire des comptes d'apothicaire.
Alors,
je pense que ce qui est important, c'est que dans chaque village, dans chaque ville de France, il puisse y avoir des élus locaux marcheurs, parce qu'encore une fois, c'est une condition pour agir.
Comment vous expliquez que le dégagisme qui a marché il y a 2 ans avec la présidentielle et avec les législatives, vous avez fait un raz-de-marée, ne prenne pas au municipal ? Est-ce parce que La République En Marche est perçue comme un parti parisien et qu'au fond, l'implantation locale, eh bien, c'est un métier ?
Je crois pas. Je crois que ça tient plutôt à la nature et au boulot que font les maires sur le terrain. Je le dis souvent, il y a beaucoup de maires qui ont fait du En Marche avant En Marche. C'est-à-dire qui ont construit des majorités municipales plurielles, qui ont décidé de peu se soucier des étiquettes partisanes et puis qui font du bon boulot de terrain. Et donc nous, c'est comme ça qu'on aborde cette élection. On sera travaillé avec des élus locaux qui sont volontaire pour travailler avec la majorité présidentielle. Évidemment, ça c'est une condition clé, mais je pense qu'il faut qu'on soit très pragmatique. Et moi, à la tête du mouvement La République En Marche, je veux élargir ce mouvement. Et je pense que ces élections locales, mais c'est une bonne occasion de le faire, de pouvoir travailler sincèrement avec des gens qui ont envie de bosser avec nous, évidemment, ça c'est clé, mais que l'on puisse, sur le terrain, dépasser, faire ce dépassement qui est
oui,
nécessaire dans la vie politique française.
On aurait pu imaginer que l'impulsion que vous avez donnée, le nouveau monde dont vous aimez parler, que vous avez instauré au législatif, pourrait se retrouver au municipal, qui est toujours cette envie.
Envie. Mais on confond deux débats. Le débat sur les étiquettes, sur les personnes, et on parle que de ça dans ces élections municipales, alors que vous conviendrez qu'on est très loin encore du scrutin à 5 mois. Je crois que les habitants des villes, ils sont pas vraiment encore rentrés dans ces élections. Et ce qu'on veut porter au fond comme projet. Et là, oui, évidemment, on n'a rien abandonné de la volonté de transformation du pays. Et je crois qu'il faut plus qu'on parle de fond dans ces élections. Moi, je suis un progressiste. Et je veux que le progressisme vive partout, en particulier au niveau local. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment on construit des villes progressistes? Comment est-ce qu'on fait la transition écologique? Non pas contre nos concitoyens, mais avec eux. Comment est-ce qu'on bâtit des villes inclusives?
Mais vous avez
comment
les troupes pour
vivre
faire ça,
la démocratie
Guérini,
participative.
Vous avez les troupes pour faire ça? 34 nouvelles têtes de liste pour les municipales, c'est ce qui a été annoncé hier soir. Vous avez donc maintenant 290 têtes de liste dans des communes de plus de 9000 habitants. Est-ce que vous avez une telle difficulté à créer
Non, d'abord, je crois qu'il y a peu de formations politiques qui ont déjà investi 300 candidats pour ces élections municipales. Je crois que
vous êtes le parti majoritaire.
Oui, bien entendu, mais vous voyez que je vous parle ce matin avec l'humilité. De quelqu'un
la prime
qui
à l'existant,
aussi.
Normalement, ça pourrait marcher, mais non.
Mais encore une fois, au niveau municipal, nous sommes entrants dans cette élection. Ça n'aurait aucun sens d'analyser ce scrutin comme si nous en étions les sortants. On a investi 300 candidats, et puis surtout, il y a les marcheurs sur le terrain. Moi, je me rappelle de la dernière élection européenne. Qui était dans les rues? Qui était sur le terrain? Mais les militants de La République En Marche, et avec nos partenaires. Et je crois que ça, c'est la force de ce mouvement, qui est resté un mouvement citoyen. Et je veux qu'il reste un mouvement citoyen. Et l'ADN de ce mouvement, c'est de pouvoir engager des gens dans la vie politique, de faire en sorte que des personnes qui étaient engagées dans la vie associative, qui faisaient autre chose, puissent demain prendre un mandat d'élu local. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne de dire « La République, c'est vous ». Eh bien, c'est le moment. Engagez-vous. Parce que quand on est dans une élection municipale, on peut changer le quotidien de nos concitoyens en étant un élu local.
Alors, Stanislas Guérini, la campagne vient tout juste de commencer, vous le dites. Les sondages valent ce qu'ils valent. On est à 5 mois. Il faut relativiser les choses. Mais tout de même, il montre que dans les grandes villes, ça, on disait que La République En Marche, que le macronisme était un parti urbain, mais même dans les grandes villes, ça va être compliqué pour vous. À Reims, le sortant LR Arnaud Robinet est crédité de 53% quand votre candidat est à 6%. À Saint-Étienne, un autre LR, Gaël Perdriau, mesuré à 43% quand ce ne serait que 7% pour La République En Marche. Comment vous expliquez cela?
Mais de façon très simple, d'abord, bon, je prends un peu de distance par rapport à ces sondages-là.
J'ai mis des bémols.
J'assume le fait que les personnes qui s'engagent dans la vie locale avec l'étiquette de La République En Marche sont pour l'instant peu ou pas connues de nos concitoyens dans ces villes-là. Mais vous me parlez de Reims. Gérard Chemla, qui est notre candidat là-bas, c'est une personnalité exceptionnelle. C'est l'avocat des victimes du Bataclan. C'est quelqu'un qui est extrêmement engagé dans sa ville. J'ai eu l'occasion de me déplacer avec lui à Reims, d'aller sur
Reims
un marché.
Ou Arnaud Robinet, pardon. Arnaud Robinet avait accepté de travailler avec vous. Il était plutôt Macron compatible et vous lui avez mis quelqu'un en face.
Oui.
Oui.
Vous voyez, je l'assume. Pourquoi? Parce que il faut être clair. Quand on dit que vous travaillez avec la majorité présidentielle, en l'occurrence, Arnaud Robinet, vous avez dit, moi, je veux bien bosser avec vous, mais est venu le temps des européennes. Et il a dit, non, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument voter pour la liste de Monsieur Bellamy. Je pense qu'on fait mieux et plus clair comme signal de vouloir travailler avec nous. Moi, je crois que, effectivement.
En revanche, vous allez pardonner à Christian Estrosi, qui avait pourtant appelé à voter pour François-Xavier Bellamy.
Chaque ville, j'essaie de comprendre la cohérence. Comme un cas particulier, la situation à Nice que vous mentionnez est un cas particulier. Il y a deux candidats qui se battent pour l'investiture, Éric Ciotti, Christian Estrosi. Ben, on va regarder. On n'a pas pris de décision encore. Je pense que ça se regarde un petit peu différemment.
Et à Paris, où il y en a deux, là, des candidats, Benjamin Griveaux, officiellement candidat, Cédric Villani, qui reste en lice. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Ranson, a tiré la conclusion, qui s'impose dans Le Parisien, qu'on le veuille ou non, dit-il, il y a aujourd'hui deux candidats issus de La République En Marche dans la capitale. Vous admettez que ça fasse des ordres?
Pardon, mais
et que
pour
ce
moi,
soit
il y a
incompréhensible.
Un candidat qui est investi par La République En Marche, qui est Benjamin Griveaux.
De fait, il y en a deux.
Ce que je regarde, c'est la campagne qui est en train de se passer sur le terrain. Ce que je vois, c'est que Benjamin Griveaux fait une bonne campagne de terrain. Il est en faisant des propositions. Il fait le rassemblement. Il y a des maires d'arrondissement venus de la gauche, venus de la droite, qui ont décidé de le rejoindre. Il y a une dynamique sur le terrain. C'est ça qui m'intéresse à ce stade. Je crois que les commentaires de personnes, honnêtement, ne valent pas grand-chose quand il s'agit des élections municipales.
Vous dites quoi à Cédric Villani ? Vous lui dites quoi ?
Bien, je lui dis de nous rejoindre. Ce que j'ai dit depuis le début, nous n'avons aucun intérêt à partir divisé. Je crois que si nous voulons porter un projet pour Paris, c'est que nous estimons que la ville est mal administrée aujourd'hui. Nous estimons qu'il y a mieux à faire pour Paris, qu'il y a des problèmes du quotidien des Parisiens qu'il faut pouvoir régler sur les transports, sur la propreté, sur la sécurité avec la police municipale.
Il dit la même chose, Villani.
Et donc, mais c'est le constat que je fais, il ne porte pas un projet qui est si différent que ça. Et donc, je dis, rassemblons-nous. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix, à la demande du candidat que nous avons investi, Benjamin Griveaux, de ne pas exclure Cédric Villani. Parce que moi, je veux faire le rassemblement. Je veux que nous portions un projet uni.
En attendant, c'est la division, on peut le dire comme ça.
C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
Et à Lyon, alors
Effectivement, je souhaite qu'avant le premier tour, nous partions rassembler. Et c'est l'objectif que je continue de porter.
Et à Lyon, est-ce que le bal ne fait que commencer une guerre pour la métropole entre Gérard Collomb, investi, David Kimmelfeld, de fait dissident? Pour la mairie, c'est Georges Képénékian qui s'est déclaré lundi. Il avait pris l'intérim de Gérard Collomb quand Gérard Collomb était entré au gouvernement. Là aussi, qu'est-ce qui se passe? Vous tenez
deux
pas vos
dissidences.
Troupes?
Non, pas de dissidence. Nous avons fait le choix de donner l'investiture à Gérard Collomb pour porter la candidature de La République En Marche pour la métropole de Lyon. Pourquoi? Gérard Collomb a créé cette métropole, l'a pensée, lui a donné des compétences, un rapport extrêmement fort aux Lyonnais et aux habitants de la métropole de Lyon.
Mais c'est pas naturel.
Et à Emmanuel Macron.
Je crois, mais bien sûr, je ne nie pas le lien historique entre Gérard Collomb et le président de la République, mais ça serait débile de le faire, pardonnez-moi l'expression. Et donc, c'est un ensemble cohérent qui a fait que nous avons décidé de donner l'investiture et de soutenir Gérard Collomb. Parce
mais
que je crois que c'est le meilleur candidat.
Pourquoi on ne vous obéit pas alors, ni à vous, ni au président de la République?
Vous savez, d'abord, restons modestes. Tous les partis politiques, tous les mouvements politiques, au moment d'investiture, ont toujours vécu des moments de crispation parce qu'on fait des choix de personne.
Moi, je ne les... C'est pas un défaut d'autorité.
Je ne veux pas les nier. Je ne crois pas. Je crois que l'autorité, ça se construit. L'autorité, ça se décrète pas en faisant les exclusions. Vous savez, je regarde ce qu'ont fait les partis politiques traditionnels dans le passé. À chaque fois, ils ont eu les mêmes méthodes. J'ai un problème, je prends des sanctions. J'exclus. Récemment encore, les Républicains ont exclu au début du quinquennat les ministres qui avaient eu le malheur de vouloir dire « Tiens, je veux participer avec La République En Marche à la réussite de ce quinquennat ». Ben, je ne crois pas que ça soit la bonne manière de faire grandir des organisations politiques. Regardez l'état de ces partis politiques. Moi, je fais le défi de faire le choix de l'intelligence, de faire le choix de la raison. C'est un travail qui est plus difficile de rassembler. Mais c'est celui que, et c'est la méthode que j'ai décidé d'appliquer.
Vous voulez qu'on passe au standard peut-être, Léa?
Oui, ou comme vous voulez. Mais,
c'est comme au double en tennis. Parfois, il y a une balle qui passe entre les deux raquettes. On est donc, on est donc au standard avec Jean-François depuis Marseille. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
À l'équipe de France Inter. Voilà, j'ai une question extrêmement simple. Je viens d'entendre de M. Guérini, Paris, deux candidats, une bonne dynamique de campagne actuelle de M. Griveau, un gros travail, des projets avec des ambitions. Ma question est la suivante. Quand allons-nous connaître le candidat investi à Marseille pour avoir la même dynamique?
Merci Jean-François pour cette question qui m'a l'air de venir du cercle de La République En Marche.
J'imagine,
locale peut-être.
Je
Stanislas Guérini vous répond.
Apporter cette campagne dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que nous avons constaté à Marseille? Que Marseille a besoin de renouveau. Que Marseille a besoin de changer d'air, de changer de système. Et qu'aujourd'hui, les candidatures qui sont portées ne permettent pas ce changement d'air. Je fais un deuxième constat. À Marseille, aucune formation politique seule détient les clés pour pouvoir faire cette proposition de renouveau. Et donc, qu'est-ce que nous voulons faire? On veut bâtir un rassemblement plus large. Il faudra dépasser les frontières de La République En Marche. Il faudra bâtir un arc progressiste à Marseille. Ben, c'est ce qu'on a décidé de faire. D'ailleurs, en partant du local, en partant des secteurs d'arrondissement, pour pouvoir faire émerger une nouvelle génération d'élus marseillais. Nous avons décidé de prendre encore quelques semaines pour rencontrer tout le monde, voir qui est prêt à travailler ensemble, au-delà des étiquettes partisanes, pour l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais. Et donc, je demande un peu de patience encore, mais dans les prochaines semaines, on aura construit cette offre progressiste pour Marseille.
Allez, retour au standard et à Lyon. Lyon, bonjour, bonjour Albert.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, voilà, je suis un marcheur très déçu, car j'estime qu'à Lyon, on a désigné un candidat qui n'avait pas choisi l'étiquette La République En Marche, face à un candidat qui, lui, avait demandé l'investiture La République En Marche. Donc, je demande à Stanislas Guérini, comment se fait-il que, j'en rajoute une couche, bien sûr, ce choix ait été fait. Voilà.
Merci Albert pour cette question. Stanislas Guérini vous répond.
Vous me faites économiser de l'argent, vous me faites faire un tour de France, toutes les comités locaux.
On prend les questions.
Et c'est très bien, et ça me permet de parler aux marcheurs ce matin. Bien. En précisant que Gérard Collomb, oui, a bien sûr demandé l'investiture de La République En Marche. Il nous a fait cette demande-là. On lui a accordé, pour les raisons que j'ai indiquées, à la fois de fidélité, mais surtout de compétences et de liens aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Et je crois que nous avons fait le bon choix.
On est en ligne maintenant avec Jean. Jean depuis Montpellier, bienvenue.
Oui, bonjour France Inter.
Bonjour. Alors,
puisqu'il est question de Marseille et de Lyon, du coup, j'aurais bien évoqué la question de Montpellier.
Oh bah allez-y, on vous en prie.
Non, c'est pas le sens de ma question première. C'est vrai qu'à Montpellier, entre un chef d'entreprise d'envergure nationale ou internationale, un maire sortant et Macron compatible et un député en marche, c'est vrai que là aussi, ça doit être un sacré casse-tête.
Il vaut mieux avoir trop de solutions que pas assez.
Ouais, il y en a presque plus qu'à Paris, de candidats.
On vous écoute, Jean.
Oui, alors ma question, non, c'est l'actualité du moment. Bon, on nous apprend que c'est Thierry Breton qui serait donc dans les starting blocks. Sur votre antenne, il n'y a pas longtemps, Jean-Louis Bourlange, je parlais de Michel Barnier. Mm-hmm. C'est un choix qui tombe sous le sens. Enfin, selon moi, il fait un excellent boulot. Tout le monde est d'accord, que ça soit à gauche ou à droite. Mm-hmm. Pourquoi ne pas avoir reconduit Michel Barnier, tout simplement? Et c'est vrai que l'absence actuellement d'Europe En Marche, c'est assez dramatique par rapport à...
Bien reçu. Merci, merci Jean pour cette question qui concerne donc le deuxième tour, on va dire, après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard, Thierry Breton donc ce matin et pas Michel Barnier. C'est la question que vous pose Jean.
Alors d'abord pas Michel Barnier, je commence à répondre à la première partie de la question parce qu'il ne vous a pas échappé que Michel Barnier a encore un tout petit peu de travail. Le sujet du Brexit n'est pas totalement derrière nous. Et donc je crois que Michel Barnier, qui fait un boulot, il faut le reconnaître, exceptionnel pour gérer ce dossier extrêmement compliqué, on a encore besoin de lui pour ce dossier-là.
Est-ce qu'accessoirement, le fait qu'il appartienne au PPE a contribué au choix ?
Je crois que le président de la République...
Pour expliquer aux gens, le président de la République ayant l'impression d'avoir subi un règlement de compte du parti de droite au Parlement européen, le PPE, qui n'a pas voulu le suivre sur Sylvie Goulard.
Ça ne motive pas ce choix-là. Je crois que le président de la République a de nombreuses fois fait la démonstration qu'il était capable de travailler avec des personnalités qui venaient de tous les bords. Et donc, je ne pense pas que ça soit la motivation principale. Non, la motivation principale pour la nomination, la proposition par la France de la nomination de Thierry Breton, c'est la compétence. C'est que pour gérer ce portefeuille, qui est un portefeuille extraordinairement vaste et complexe. Il va s'agir quand même de la politique industrielle, de la défense, du numérique, du spatial, c'est-à-dire tous les sujets sur lesquels l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'Europe se joue. Eh bien, il fallait une personnalité qui soit à la hauteur du portefeuille que la France va occuper. Je crois que Thierry Breton, c'est cette personnalité-là. C'est à la fois un capitaine d'industrie, c'est une personnalité engagée dans les enjeux européens, qui a travaillé sur des dossiers franco-allemands, et donc ça sera une personnalité compétente européenne, donc la bonne personnalité pour incarner ce poste de commissaire au niveau de la Commission. Mais pardon, un mot encore pour dire, il a raison, on parle pas assez d'Europe. L'Europe doit se mettre en route plus rapidement. On voit bien que sur les grands sujets, les sujets d'immigration, sur la taxe sur le numérique, sur ces grands sujets qui font l'avenir des Européens, mais surtout des Français, eh bien, on a besoin de plus d'Europe. Maintenant, on pèse au niveau de la Commission, au niveau du Parlement. Eh bien, il faut activer ces pouvoirs-là pour engranger maintenant des succès européens.
Retour au standard. C'est Léo qui a la parole. Bonjour, Léo.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, merci. Oui, monsieur Guérini, alors je voulais vous poser une question récemment, et c'est toujours...
Non, Guérini, il a dit...
Ah, il a dit Guérini, excusez-moi.
Non, allez-y, Léo. C'est Léa qui vous corrige.
Je suis sourde, pardonnez-moi.
Non, pas de souci. Je disais, oui, alors récemment, et c'est toujours en cours de transformation, La République En Marche, enfin, le gouvernement a décidé de supprimer la taxe d'habitation. Fatalement, mathématiquement, les maires, les communes ayant toujours des budgets à tenir, la plupart ont été obligés d'augmenter les taxes foncières. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de clientélisme derrière ça, en faisant passer d'un côté, regardez-nous, on est gentils, on vous a baissé vos impôts, et les méchants maires en place sont obligés d'augmenter, ont augmenté vos impôts.
Merci Léo pour cette question. Stanislas Guérini vous répond.
Oui, on supprime la taxe d'habitation, on l'assume, on va rendre du pouvoir d'achat aux Français. Sur le quinquennat, c'est 27 milliards d'euros de baisse d'impôts. C'est inédit dans la 5e République, je le fais remarquer, c'était un engagement. On fait plus que le tenir et on rend de l'argent aux Français. Deux, ce que vous dites serait vrai si on ne compensait pas la suppression de la taxe d'habitation pour les communes. Or, on la compense à l'euro près. C'est-à-dire que les communes ne vont perdre aucun euro à travers la suppression de la taxe d'habitation. Et donc ensuite, elles font les choix qu'elles font en matière de politique locale et de fiscalité locale, mais ça n'est pas lié avec la question de la suppression de la taxe d'habitation.
Sur l'application mobile de France Inter, il y a beaucoup de questions sur le thème suivant. Je cite juste la question de Loris. Selon le Canard Enchaîné, une note secrète du ministère de la Justice prévoit d'attribuer ou de supprimer des postes de juges en fonction des scores aux municipales. Comment expliquez-vous cette très grave entorse à la séparation des pouvoirs, demande Loris, avant de vous souhaiter bonne journée.
C'est totalement faux. C'est pas du tout ça qui est prévu, bien sûr. Alors moi, je le dis, je n'ai jamais, et personne à La République En Marche n'a participé à une réunion de cette nature-là. J'ai lu l'article dans le Canard Enchaîné.
Donc c'est faux dans l'article.
Mais il n'y a eu aucun moment la volonté de lier la réforme aux élus locaux de La République En Marche. Je crois que quand on prépare une réforme, c'est normal de se poser la question de savoir qui sont les élus locaux en place, qui va être capable de l'expliquer, mais en aucun cas, les choix de la chancellerie ne sont faits en fonction des scores électoraux.
Une question sur la laïcité qui, on l'a vu et entendu ces dernières semaines, a un peu créé des troubles dans votre parti. François Hollande a dit hier que Jean-Michel Blanquer avait donné une position personnelle sur le voile alors qu'il est ministre de l'Éducation et qu'à ce titre, il doit être animé par un principe de responsabilité qu'il aurait quelque peu oublié. Vous lui répondez quoi, François Hollande ?
Il y a peu de ministres qui ont autant un principe de responsabilité que Jean-Michel Blanquer. depuis le début du quinquennat, pour faire à la fois valeur les valeurs de la République dans l'école, et je crois que c'est extrêmement important de le faire, et puis pour s'engager pour ce qui est le plus essentiel au fond, c'est-à-dire l'émancipation de chaque enfant. De pouvoir faire en sorte qu'en dédoublant les classes, en faisant la maternelle obligatoire à 3 ans, en apportant des petits déjeuners gratuits, en augmentant les postes dans l'éducation nationale, on donne une chance à chaque enfant de construire son libre arbitre. C'est comme ça qu'on va faire valoir les valeurs de la laïcité. C'est comme ça qu'on va lutter contre le communautarisme. Il n'y a pas un ministre qui est plus engagé pour faire cela. Et donc je pense qu'il faut laisser Jean-Michel Blanquer un peu tranquille avec cette histoire. Il a effectivement affirmé ses convictions. Je crois surtout que c'est un ministre de l'Éducation nationale qui est extrêmement engagé pour défendre les valeurs de la République. Et ça, je crois qu'on pourrait tous être d'accord là-dessus.
Il y a un de vos députés, Aurélien Taché, qui l'avait critiqué, qui s'est excusé. C'est ça ? Il a dû s'excuser.
Oui.
Et alors que c'était un peu celui qui suivait les dossiers laïcité, on apprend que vous l'avez mis à l'écart des dossiers laïcité à La République en Marche.
Pas du tout, pardon, mais ces informations qui sont erronées. Il est engagé, évidemment, au sein du mouvement pour faire vivre le débat d'idées. Il continuera à être engagé au sein de notre mouvement. J'ai lu ici ou là qu'il en était écarté. C'est pas vrai. Il va évidemment rester. On a le droit d'exprimer ses opinions. Et fort heureusement, quel parti politique on serait si jamais on ne pouvait pas exprimer ses opinions.
Mais on doit s'excuser
On doit le faire selon des règles du jeu. Et donc, le seul sujet qui était en cause ici, c'était un débat de forme. Je crois qu'il ne faut pas attaquer les uns les autres. On débat en notre sein, on prend une ligne et on la tient.
72 signataires, Stanislas Guérini, d'une tribune dans le JDD, appellent à la création d'un pôle de gauche au sein de la majorité. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, depuis des mois et des mois, on n'arrête pas d'annoncer la naissance de ce pôle. Pourquoi c'est si compliqué ?
Vous voyez, ça n'est pas si compliqué, puisque des élus locaux...
C'est une annonce, qu'ils ont décidé de
s'engager, bien entendu. Ils ont créé cette initiative qui s'appelle Territoire de Progrès. Je trouve que c'est un beau nom. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'élargissement de la majorité présidentielle. C'est de faire en sorte que, de même que des élus qui venaient de la droite ont dit « Nous aussi, on met un peu les étiquettes de côté et puis on décide de s'engager parce qu'on pense que cette majorité, elle fait du bon boulot, que ça va dans le bon sens. On ne sera pas d'accord sur tout, mais tant mieux d'une certaine façon parce que ça va enrichir le débat. Mais on a décidé de contribuer, de participer. C'est une excellente nouvelle. » C'est pas le
retour des courants. Ça veut dire quoi ? C'est le retour des étiquettes. Ce que j'allais dire, vous nous avez expliqué que c'était fini la droite et la gauche et là, maintenant, vous créez un pôle gauche. Oui, et si on crée un pôle...
Je vous connais un petit peu, j'anticipe vos questions.
Non mais alors répondez.
Est-ce que
créez un pôle gauche, ça veut dire que La République En Marche est à droite et donc il faut marquer la gauche ? C'est pourquoi ?
Pas du tout.
Ça sert à quoi ?
Je crois qu'il y a une confusion. D'une certaine façon, si je vous écoute, on a l'impression qu'on aurait bâti des cloisons à l'intérieur de notre maison. C'est pas ce qu'on a fait. C'est une extension à côté de la maison.
Mais une extension au fond à gauche quand même, c'est ça ?
De personnalités qui viennent de la gauche. Et qui s'affirment comme tels, sociaux-démocrates.
Donc par définition, elles trouvent un parti à droite si elles sont à gauche.
Mais
non,
c'est marrant, vous m'avez pas fait les mêmes commentaires quand il y a quelques mois, des élus locaux venant de la droite ont décidé de dire nous on a envie de travailler avec la majorité présidentielle.
Si, on les a fait.
Ça voulait pas dire qu'il y avait un recentrage et qu'on était trop à gauche à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est en train de se passer ? Ça veut dire, et c'est assez inédit, permettez-moi, parce que moi je vois les quinquennats précédents. Les majorités, elles se rétrécissaient, elles se recroquevillaient. Et là, on est à la moitié du quinquennat à peu près, et notre majorité présidentielle s'élargit. De plus en plus d'élus ont envie de travailler avec nous parce qu'ils disent ça va dans le bon sens. Il faut qu'on bâtisse
un grand
bloc.
La droite, ça existe encore, Stanislas Guérini ?
Mais il y a des gens qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite. Moi, je viens de la gauche. Et j'ai décidé de dépasser justement ce clivage-là, que je trouve daté. Et je pense que les électeurs en sont encore d'accord. Ils l'affirment élection après élection. Vous voyez les élections européennes. On nous avait dit d'une certaine façon...
Le pôle est à peine né, qu'il est déjà daté.
Ça va retrouver son lit. C'est pas ça qui s'est passé. Les électeurs aux élections européennes, ils ont dit, encore une fois... on dépasse ces étiquettes-là. Il y a eu les extrêmes, effectivement, qui sont encore trop présents. Et on luttera pied à pied pour les battre. Ce sont nos adversaires. Et puis, les progressistes dans ce pays. Et donc, ce qui s'est passé hier, c'est que effectivement, ce qui s'est passé dimanche, c'est qu'il y a des gens qui viennent de la gauche et qui nous disent « On a envie de travailler, on ne sera pas d'accord sur tout, mais construisons ensemble un bloc central dans la vie politique pour agir et pour changer le quotidien de nos concitoyens. C'est ça qui compte et seulement ça. »
Monsieur le délégué général du parti La République En Marche, merci d'avoir été au micro de France Inter. Merci Stanislas Guérini.